Bardo, Éric Bataillon.
Bonjour. La plupart des chancelleries occidentales déconseillent de se rendre dans les péninsules égyptiennes du Sinaï. El Kantara, El Arish au nord, mais aussi At-Tur au sud, et les hommes d'affaires qui se rendraient à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sont sommés de prendre un maximum de précautions et surtout de ne s'y rendre qu'en avion. Il est vrai que les attentats islamistes de cet été, réprimés violemment par l'armée égyptienne, ont laissé des traces. Le Sinaï fait, depuis, l'objet d'une attention particulière de la part des autorités du Caire. Pas de revue de presse croisée cette semaine, mais deux reportages. L'un sur les femmes talibanes en Israël, des juives ultra-orthodoxes, nous dira Michel Paul à Jérusalem. Et l'autre sur la chasse au niqab en Égypte. C'est ce que nous racontera Alexandre Bouchanti depuis le Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Ivan Sand, bonjour.
Bonjour.
Chercheur à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8, auteur d'un mémoire de recherche sur le Sinaï, un mémoire qui a été couronné par un deuxième prix du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique. Alors le Sinaï est actuellement le théâtre d'affrontements entre des groupes islamistes et l'armée égyptienne. L'un de ces groupes a d'ailleurs prêté allégeance à l'organisation État islamique. Pourtant, écrivez-vous, cet état de guerre n'est pas nouveau et le Sinaï est historiquement une zone affrontement.
Absolument, c'est vrai qu'on parle souvent des affrontements au Sinaï depuis l'allégeance du principal groupe terroriste Ansar Beit al-Maqdis à l'État islamique. Alors cette allégeance est un peu une allégeance d'opportunité, hein, puisqu'il y a peu de temps, ce groupe se revendiquait de l'idéologie d'Al-Qaïda. D'autres attentats ont eu lieu au début des années 2000 à Taba, plutôt dans le sud du Sinaï, qui comporte les principales cités balnéaires de la péninsule. Alors c'est assez intéressant de voir qu'on considère souvent le Sinaï comme un tout dans les médias, à la fois égyptiens, israéliens ou occidentaux. Finalement, quand on regarde plus précisément, effectivement, le Sinaï est aujourd'hui décrit comme une zone de guerre, mais finalement, ces affrontements sont confinés dans un petit triangle au nord du Sinaï, qui fait à peu près quelques dizaines de kilomètres de côté, alors que le Sinaï est une région de 60 000 km². C'est à peu près deux fois la Belgique quand on compare. Donc effectivement, dire que le Sinaï est aujourd'hui une zone de guerre, comme on le lit souvent, est un petit peu abusif, je pense.
Donc les combats sont plutôt, ou les attentats sont plutôt centrés sur la région Est, plus près
le nord-est
de l'Israël.
Tout près de la bande de Gaza, en fait. Donc la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte est longue de simplement 13 kilomètres, donc c'est très restreint. Donc, ces attentats sont localisés près de la frontière israélienne et de la bande de Gaza. Les principales cibles sont aujourd'hui les forces de sécurité militaires égyptiennes et non pas israéliennes. Il y a eu quelques attaques contre des postes frontières israéliens, mais les principales cibles sont aujourd'hui les forces militaires égyptiennes. Alors paradoxalement, cette zone est une zone démilitarisée depuis les accords de paix entre Israël et l'Égypte. Et c'est cette démilitarisation qui a permis à ces groupes armés de prendre racine, en fait, dans la péninsule du Sinaï.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Sinaï a toujours été un lieu d'attraction. Il a été successivement la propriété d'un certain nombre de gens, donc les Égyptiens, bien sûr, mais aussi les Israéliens et autrefois l'Empire Ottoman.
Absolument. C'est assez cocasse du point de vue des habitants du Sinaï. Je lisais, il n'y a pas très longtemps, un témoignage dans un rapport d'ONG où un habitant bédouin du Sinaï disait « On a connu successivement uniquement des occupations. Après les Anglais, il y a eu les Égyptiens. Après les Égyptiens, les Israéliens. Et aujourd'hui, à nouveau, les Égyptiens. » Donc cette petite blague un peu provocante signifie que la population du Sinaï vit son rattachement à l'Égypte comme une sorte d'occupation. Donc évidemment, c'est pas le cas. Hein. Le Sinaï est de souveraineté égyptienne, mais simplement pour ses habitants, l'opportunité de signifier qu'ils ne voient absolument pas une once de développement possible de leur région pour eux, pour les habitants du Sinaï.
Car les habitants qui vivent dans le Sinaï, ce sont essentiellement des bédouins.
Alors, on dit qu'il y a à peu près deux tiers ou un petit peu plus de bédouins. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire la différence entre quelqu'un qui serait bédouin et quelqu'un qui serait pas bédouin. On a l'image des bédouins en France qui seraient des nomades. Ils sont plus nomades depuis très longtemps. Ils s'habillent en jean, basket, comme tout le monde. Mais ils sont exclus de la citoyenneté égyptienne. Ils ont la nationalité. Ils ont énormément de problèmes pour l'acquisition de terres. Ils sont exclus également des académies militaires. Ils ont beaucoup de mal à y entrer, alors que c'est quelque chose de très prestigieux. Lorsqu'ils font leur service militaire, ils sont très souvent envoyés très loin de leur zone d'origine, parce qu'on leur ferait pas totalement confiance. Ils pourraient avoir des accointances avec les ennemis de l'Égypte. Ils ont été décrits comme des gens qui étaient contents de l'occupation israélienne, qui en ont profité d'un point de vue économique, ce qui est absolument faux.
Dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, l'occupation israélienne.
Absolument, entre 67 et 1982, et puis même 1989, si on considère la ville de Taba, qui a été rendue définitivement en 1989. Ça reste un petit traumatisme pour les habitants du Sinaï. L'épisode de la ville de Taba qui a été entièrement détruite par l'administration israélienne alors que les Égyptiens avaient prévu de la racheter à l'administration. Et les Bédouins ont vécu cette destruction comme une humiliation, dire qu'ils n'étaient pas dignes un petit peu de profiter des infrastructures construites par les Israéliens.
Alors les habitants de la péninsule ont l'impression d'être des sous-Égyptiens en quelque sorte. Est-ce que c'est la conséquence du fait que sur le territoire, on est en situation de guerre en quelque sorte, du point de vue égyptien ?
Je pense que c'est plus ancien que ça. Il faut savoir que même dans le langage des habitants du Sinaï, cette frontière est inscrite, puisque lorsque les habitants du Sinaï parlent des Égyptiens en général, ça signifie les habitants du Delta et de la vallée du Nil. Et il y a un fort ressentiment, en fait, du côté des habitants du Sinaï qui pensent que les principaux postes de l'administration ou de l'industrie touristique est réservé aux habitants du Delta qui seraient détachés et qui viendraient travailler dans le Sinaï. On se demandait si c'était vrai pendant un moment et on a pu mesurer via certains chiffres que c'était absolument vrai. On voit notamment dans le gouvernorat du Sud Sinaï qui comporte les principales cités balnéaires, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et en fait, c'est dû à un phénomène très simple qui fait que les hommes de la vallée et du Delta du Nil viennent travailler dans le Sud Sinaï et retournent ensuite dans leur famille. C'est pour ça qu'il y a plus d'hommes. Et finalement, l'argent qui est gagné via ces cités balnéaires n'est pas du tout réinvesti dans la région du Sinaï, puisqu'il est, il revient ensuite aux familles du Delta.
Principale station balnéaire, d'ailleurs, c'est Sharm el-Sheikh.
Sharm el-Sheikh, très connu, évidemment, également pour ses sommets politiques. Donc, il y a une petite portée symbolique dans la péninsule du Sinaï, puisque Sharm el-Sheikh a accueilli de nombreux sommets, notamment entre Israéliens et Palestiniens.
Alors, du point de vue des habitants du Sinaï, on voit qu'on est comme sous une forme d'occupation. Mais à l'inverse, du côté égyptien, le Sinaï représente quelque chose de très fort, notamment pour l'armée.
Absolument. Il est vrai que l'abandon ressenti par les habitants du Sinaï n'a d'égal que la place de choix de cette région dans les discours nationalistes en tant que symbole patriotique de l'Égypte. C'est-à-dire que dès 1956, finalement, avec la crise du canal de Suez, le Sinaï est érigé comme un symbole du nationalisme retrouvé par les Égyptiens. Et puis dans les guerres successives, en 1967 et en 1973, le Sinaï est vu comme un trésor que l'Égypte doit récupérer. Aujourd'hui, ce symbolisme est inscrit même dans la toponymie égyptienne. Il y a certaines villes qui portent le nom des dates de déclaration de guerre, comme le 6 octobre, qui fait référence à la guerre du Kippour de 1973. Le 25 avril, qui est la date à laquelle les Israéliens se sont retirés définitivement du Sinaï en 1982, est un jour chômé en Égypte, est un jour férié. Donc c'est pour ça que les habitants du Sinaï voient cela de façon très amère, puisque finalement leur territoire est devenu un symbole du patriotisme égyptien sans que eux ne puissent profiter de programmes de développement.
Et même le président actuel, l'ex-maréchal Al-Sisi, porte une médaille qui
Absolument.
Est une médaille qui commémore le Sinaï.
Qui est une des plus grandes décorations militaires égyptiennes, qui est la médaille de l'étoile du Sinaï.
Alors cette frustration de la part des habitants du Sinaï, est-ce qu'elle les conduit à soutenir les groupes armés sur son territoire ?
Je ne suis pas sûr que ça soit uniquement la frustration qui puisse amener certains jeunes désœuvrés à être recrutés dans les rangs de ces groupes armés. Je pense que c'est avant tout un déclassement social, un taux de chômage très élevé, une population extrêmement jeune. La fécondité est assez importante dans l'ensemble de l'Égypte et particulièrement dans le Sinaï. Ces gens ont très peu de perspectives d'avenir. Il y a aussi une histoire un petit peu compliquée avec les forces de sécurité égyptiennes. Suite aux attentats dans le sud du Sinaï de 2004-2005-2006, il y a eu des exactions et des arrestations de masse qui ont été conduites par les forces de sécurité égyptiennes. beaucoup d'emprisonnements. On parle de 3000 personnes emprisonnées immédiatement après ces attentats. Je pense que tout cela nourrit énormément de ressentiments. Après, de là à dire qu'il y a un soutien réel de la population du Sinaï pour ces groupes armés, c'est absolument faux. De nombreux chefs tribaux aident l'armée égyptienne à collecter du renseignement dans la péninsule. Et ils en ont extrêmement besoin, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les Bédouins, lorsqu'ils font leur service militaire, ce qui n'est pas toujours le cas, ils ne sont pas affectés dans le Sinaï. Donc, les militaires qui arrivent dans cette péninsule ne connaissent pas bien le territoire, manquent de renseignements et ont besoin du soutien de la population.
Donc, vous diriez que c'est une situation conflictuelle, évidemment, mais ce n'est pas une poudrière.
Oh, c'est toujours compliqué de se prononcer sur ce type de substantif. Poudrière, oui, ça l'est quand même. Depuis 2011, le nombre d'attentats est très élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sinaï a été successivement utilisé par les pouvoirs égyptiens, que ça soit les Frères musulmans ou l'armée lorsqu'elle est revenue au pouvoir en 2013. Ça a été utilisé pour discréditer les pouvoirs en place. C'est-à-dire que lors de la campagne pour renverser le président Morsi, on a mis en avant le fait qu'il n'était pas capable de contenir l'insurrection du Sinaï. Juste avant, pareil, les gens qui ont succédé à Moubarak ont été discrédités parce que de la même façon, ils n'arrivaient pas à combattre l'insurrection du Sinaï. Donc on a l'impression que ce territoire est utilisé par les dirigeants égyptiens pour discréditer leur opposition politique, mais une fois au pouvoir, ils n'ont pas de solution à apporter.
Merci Ivan Sand, chercheur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, auteur d'un mémoire sur le Sinaï.
Merci à vous pour votre invitation.
Orient Hebdo sur RFI.
La chanteuse d'origine soudanaise Al-Sara est la voix du moment. Arrangement africain et pop maghrébin, son nouvel album Silt est en précommande et un premier titre est déjà disponible, Soko. Premier extrait prometteur du dernier album de la soudanaise Al-Sara et de ses musiciens The New Beltons. En Égypte, la guerre a été déclarée contre le niqab, ce voile noir qui couvre la femme de la tête aux pieds. Une guerre sur fond d'élections législatives dont les résultats sont attendus en décembre. Et même si presque tous les candidats sont officiellement pro-président Sisi, laïcs et islamistes croisent le fer, Alexandre Boutchanti.
Oui, il s'agit de savoir qui est le plus fort. Les laïcs dispersés entre droite et gauche ou les islamistes réunis autour du parti salafiste Al-Nour. Et les laïcs ont décidé de viser le talon d'Achille d'Al-Nour, c'est-à-dire sa vision des femmes. Obligé de par la loi d'avoir des candidates sur ses listes, Al-Nour a opté pour des porteuses de niqab, des listes où, après les photos de nombre de candidats barbus, on voit celles de candidates cachées derrière leur voile. De quoi provoquer un ouragan de sarcasme sur les médias sociaux, mais aussi des appels à suspendre les salafistes d'Al-Nour, conformément à la Constitution, qui interdit les partis religieux.
Mais Alexandre, le niqab est-il un précepte de l'islam ?
Oui, selon les salafistes qui l'estiment obligatoire. Non, selon des oulémas de la grande mosquée d'Al-Azhar. Certains affirment même que le niqab est une coutume juive qui s'est transmise à la péninsule arabique.
Donc cette guerre du niqab va bien au-delà de l'aspect religieux.
Oui, tout à fait. La guerre remonte à 1921, quand la féministe Hoda Sharaoui a tombé son voile lors d'une grande manifestation patriotique contre l'occupation anglaise. Ce geste symbolique d'indépendance et de modernisme allait progressivement conquérir toute l'Égypte. dans les années 60, le voile ne subsistait qu'à la campagne et dans les quartiers populaires. Et encore, c'était un voile qui ne masquait pas le visage et laissait même apparaître une partie des cheveux.
Alors, qu'est-ce qui a changé, Alexandre ?
Le boom pétrolier. Avec la hausse des prix du pétrole après la guerre arabo-israélienne de 73, les pays du Golfe ont attiré la main-d'œuvre égyptienne. Une main-d'œuvre influencée par le rigorisme saoudien, d'autant plus fort que l'Arabie s'employait activement à répandre le wahhabisme fondamentaliste grâce au pétrodollar. Résultat, le niqab dans sa forme actuelle apparaissait dans la seconde moitié des années 70. Un niqab devenu l'instrument de mesure de la montée de l'islamisme et de la perte progressive des acquis féministes et qui a culminé avec le pouvoir des frères musulmans. Aujourd'hui, le processus semble se renverser progressivement. Reste à savoir si cela est durable.
La guerre du niqab en Égypte. Merci Alexandre.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Il y a des burqas en Israël également, et ce qui est moins connu, Michel Paul, c'est que le phénomène touche aussi la société juive ultra-orthodoxe.
Eric, il faut le souligner d'emblée de jeu, c'est un phénomène marginal, mais il existe tout de même, et on peut même dire qu'il se développe. En fait, on peut difficilement se promener à proximité du quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, mais à Charim, ou dans la petite ville voisine de Beth Shemesh, ou encore à Bnei Brak, une banlieue de Tel Aviv, sans tomber sur une femme dont l'apparence ne peut que rappeler ce qui se passe notamment en Afghanistan. Alors en Israël, ces femmes ont été surnommées les femmes au châle, ou encore les femmes talibans. Quant à leur accoutrement, il est qualifié de frumka. C'est un jeu de mots. Froum, en yiddish, cela signifie très pieux, ultra pratiquant, et l'on ajoute la fin du mot burqa. Il s'agit donc d'un groupe, un petit groupe de femmes qui, mues par une obsession de modestie et de chasteté, réclament le port du voile intégral. Dans la plupart des cas, en fait, elles appartiennent à des sectes installées en Israël et au Canada qui exigent ce genre de code vestimentaire. Certaines de ces sectes prônent la violence à l'égard de femmes et des enfants.
Difficile de savoir, Michel, combien de personnes sont impliquées dans ce phénomène.
Alors, le groupe le plus important est basé à Jérusalem, avec des antennes dans d'autres villes du pays. Il se nomme Keter Malchut, la couronne royale. Il prétend avoir 10 000 membres, mais dans la réalité, il ne compte, d'après les spécialistes, que quelques centaines d'adeptes. Leur mission, telle qu'ils la définissent eux-mêmes, est de lutter contre la décadence du monde juif ultra-orthodoxe. Il existe nombre d'autres groupuscules, certains au niveau de la cellule familiale. Ils vivent en général dans la plus grande discrétion, mais régulièrement, Eric, des scandales éclatent qui révèlent leur existence. Cela a été le cas pour Goel Aratzon, notamment, qui, avant son arrestation par les autorités israéliennes, vivait avec pas moins de 32 femmes qui revêtaient, elles aussi, le châle.
En tout cas, les femmes talibanes sont bannies au sein de la société ultra-orthodoxe, Michel.
Oui, la police a été appelée à intervenir dans les cas extrêmes, mais il s'agit surtout d'un conflit entre divers groupes religieux qui a pris à plusieurs reprises des tournures violentes. L'année dernière, une femme taliban qui se rendait au mur des Lamentations à Jérusalem ne s'est pas arrêtée à un contrôle policier. Un béret vert a ouvert le feu sur elle, la blessant grièvement. La police intervient aussi régulièrement sur plainte des proches des femmes et des enfants retenus dans ces sectes, accusés de se livrer à des sévices corporels. Mais les rabbins ultra-orthodoxes condamnent eux-mêmes l'attitude de ces femmes, avançant un argument intéressant, Eric, en se voilant le visage, en se recouvrant jusqu'à parfois 7 couches de vêtements, eh bien les femmes talibans attirent en fait l'attention sur elles.
Et les Israéliens suivent, on imagine, ce phénomène avec curiosité.
Le mois dernier, les Israéliens ont pu découvrir de plus près les femmes talibans. Une journaliste de Ynet, le site internet du quotidien Yedioth Ahronot, a réussi à s'introduire dans la secte aux tendances matriarcales et a filmé secrètement ses membres, mais la caméra d'Ariella Sternbach a été découverte, et en pleine nuit, elle a dû faire appel à la police pour l'exfiltrer.
Les Juifs talibanes, merci Michel. Merci également à François Porcheron, réalisateur de cette émission, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ou retrouver sur notre page Facebook. Bonne semaine à samedi prochain, même horaire. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.